Bonjour, bienvenue à cette dernière journée des journées Medici 2024. Donc nous allons terminer sur une journée autour de l'accessibilité, l'intelligence artificielle, qui ne sera pas sans lien avec l'accessibilité. Mais avant de commencer, Séverine Guiton va nous faire une présentation de l'Alliance des éditeurs scientifiques publics ce matin. Donc je lui cède la parole. Je voulais juste rappeler donc, quelques informations pratiques. Il y aura une pause à 10h30. Les posters sont encore affichés, donc vous pouvez tout à fait profiter des pauses et des moments de sortie pour prendre connaissance. Et encore une fois, pour celles et ceux qui doivent partir peut-être un peu en avance, n'oubliez pas de laisser vos badges sur la table d'accueil. Voilà. Donc, on est la petite équipe d'accueil avec le petit badge blanc. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.
Madame Guiton. Merci. Alors. Bien, bonjour. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente pour la première fois de façon officielle le projet d'Alliance des éditeurs publics scientifiques français. Donc, je remercie le réseau Medici pour son invitation et c'est d'ailleurs bienvenu que cette première présentation du projet se fasse devant le réseau Medici. Donc, l'Alliance des éditeurs. Donc, il faut comprendre les éditeurs au sens de structure éditoriale. Et non pas au sens de professionnels, d'individus, comme dans le réseau Medici, qui regroupe donc la communauté des professionnels. L'Alliance des éditeurs, donc c'est l'Alliance des structures éditoriales, pardon. il y a 5 critères d'éligibilité. Il faut être une structure éditoriale de statut juridique public ou privé, être rattaché à un établissement scientifique et avoir pour mission la diffusion des résultats de la recherche. Procéder à une évaluation scientifique systématique. Un point important, il faut porter en propre ou en délégation la responsabilité éditoriale et juridique des contenus publiés. Et enfin, cinquième point, la structure éditoriale doit définir une politique éditoriale et des modalités de diffusion. Donc tous ces critères ont été listés pour distinguer donc, une structure éditoriale d'un publieur, qui est une structure qui assure les fonctions liées à la publication d'un texte, donc mise en page, fabrication, référencement, mise en ligne, etc., mais qui ne porte pas la responsabilité éditoriale et juridique des publications. On pense donc par exemple aux pépinières de revues, aux plateformes de publication, aux pôles éditoriaux, aux activités de publication au sein des services communs de documentation ou au sein des MSH. Donc la création de l'ALEF serait l'aboutissement d'une longue histoire qui commence au XIXe siècle avec la création des premiers services de publication au sein des établissements de recherche, donc le premier étant le Muséum national d'histoire naturelle en 1802, suivi du CTHS, le PHE, les écoles françaises de Rome et d'Athènes, l'Institut français d'archéologie orientale en 1898. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'activité d'édition publique s'est institutionnalisée avec la création des presses universitaires et services d'édition publique. Donc la première presse est celle de Rouen et du Havre en 1966, et la plus récente est celle des Antilles, qui a été créée en 2018. Et il y a aussi la structure éditoriale Africae, qui est rattachée à l'UMIFRE, l'Institut des mondes africains, qui a été créée en 2020. Donc pendant ces 40 et quelques, enfin même plus, on a pu voir un mouvement continu de création de presse à environ une à deux structures par an. Et donc, à ce jour, seuls 24 établissements de recherche ne possèdent aucune structure éditoriale. La création de l'Alliance se situerait également, répondrait également au mouvement de la science ouverte et à son institutionnalisation progressive, puisqu'elle est inscrite maintenant dans la loi depuis 2016. Elle est inscrite également dans les bonnes pratiques au quotidien, et également dans les recommandations nationales et internationales avec la déclaration de l'UNESCO en 2021 et plus récemment les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la science ouverte. Il est important de rappeler aussi qu'il existe de nombreuses structures souhaitant défendre ou valoriser l'édition scientifique, l'activité d'édition de recherche, que ce soit à l'international, avec le Scholar Led, ou au niveau européen, avec l'Association of European University Press. Donc ce sont des structures qui prennent position. En rouge sont marquées celles qui sont engagées dans la science ouverte. Donc je citerai par exemple la UNE, Union de Editoriales Universitarias en Españolas, qui date de 1987, mais qui, en 2021, a signé une charte s'engageant dans la science ouverte. Donc, c'est une fédération de 69 structures éditoriales et qui se présente maintenant public, enfin, qui se présente dans sa communication comme le troisième groupe d'édition au niveau espagnol au nombre de publications. Donc, devant ce paysage, il a paru aux acteurs concernés qu'il était nécessaire de structurer aujourd'hui le paysage français. Donc, le projet de structuration, il a commencé par la mission de préfiguration menée par Caroline Dandurand, qui est la directrice adjointe des éditions Quae. Mission pendant laquelle elle a rencontré une centaine de structures définies comme éditeurs scientifiques publics, ce qui a permis de recueillir les avis de ces structures sur un projet de structuration et aussi de recueillir l'expression de leurs besoins et de leurs préoccupations. Donc c'est ce rapport qui est à la base du projet de structuration que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est grâce à cette mission qu'a pu être créé le poste de coordinatrice des travaux de structuration de l'Alliance, donc qui est financé par le Fonds national de la science ouverte et qui est hébergé chez France Université. France Université, c'est l'association qui regroupe les présidents d'universités. Donc cet hébergement a été à l'initiative de Lise Dumazy, qui est l'ancienne présidente de l'Université de Grenoble, qui est surtout la VP science ouverte chez France Université et qui était présidente de Couperin, donc qui était très au fait et très intéressée par les questions de publication. Donc là, il y a eu un petit temps de démarrage puisque Lise Dumazy est partie à la retraite, donc il a fallu attendre la nomination de Xavier Leroux, qui est président de l'Université de Toulon, comme vice-président sciences ouvertes et politique éditoriale. Donc il y avait déjà une évolution au sein de France Université à ce sujet. Et depuis lors, c'est France Université qui est le chef de file des négociations avec les membres fondateurs pressentis sur la convention, sur les statuts, sur les missions de l'Alliance et sur son modèle économique. Donc à ce jour, la convention n'est pas encore signée, mais ça n'a pas empêché qu'on lance un appel à manifestation d'intention en avril dernier, donc auprès des 99 structures qui avaient été identifiées. Et appel auquel 62 structures ont répondu favorablement. 63, pardon, structures. Voilà, donc une fois que leur adhésion sera validée, il nous sera possible de réunir la première assemblée constitutive des éditeurs et ainsi de mettre en place les instances de l'Alliance que vous voyez ici. Donc, comme vous pouvez le constater, l'Alliance est organisée autour de deux principales instances. Donc, d'une part, le directoire qui est composé des représentants désignés par les membres fondateurs et des élus de l'Assemblée des éditeurs, d'une part. Et d'autre part, l'Assemblée des éditeurs, donc, qui regroupe les représentants les deux représentants de chaque structure éditoriale, donc les responsables scientifiques dans le collège 1 et les responsables éditoriaux dans le collège 2. Cette structure duale permettra à l'ALEF permet une pérennité en fait dans la forme de notre structuration avec ce soutien institutionnel et également d'avoir une portée politique aux actions que mènera l'Alliance. Du côté de l'Assemblée, ça permet une représentativité de toutes les structures et bien sûr des décisions prises en commun par les pairs. Le travail de l'ALEF s'organisera autour de commissions thématiques permanentes et de groupes de travail, soit issus des commissions, soit issus de l'Assemblée, donc des groupes de travail intercommissions. Pour l'instant, je ne peux pas vous préciser plus avant l'organisation de ces commissions et ces groupes de travail. Ce sera l'Assemblée qui est souveraine et qui décidera de comment s'organise le travail opérationnel de l'Alliance. Le travail de l'Assemblée et du Directoire sera aidé par l'existence d'un conseil d'orientation et de suivi qui sera composé d'experts sollicités pour leurs compétences ou leur rôle politique dans le monde de l'édition, de la diffusion, de la recherche, de la science ouverte. Donc on peut penser à des représentants de nos réseaux partenaires comme Medici, Repère, représentants des infrastructures de recherche, des plateformes, des diffuseurs, des libraires, enfin, etc. Et enfin, il y a un secrétariat exécutif. Alors, pour préciser les acteurs de l'Alliance, ils sont de trois ordres. Donc, tout d'abord, 4 à 6 membres fondateurs. Donc, c'est des établissements d'envergure nationale qui sont représentatifs de l'ESR et sont considérés par notre tutelle comme des interlocuteurs reconnus, et notamment de par leur prise de position publique sur le monde universitaire et ses enjeux. Donc, ces membres fondateurs se portent garants de l'objet de l'Alliance. Il y a également des établissements cotisants, puisque les membres partenaires et les membres associés sont les structures éditoriales, mais nous demandons la cotisation et donc nous demandons aux établissements de tutelle de garantir l'adhésion des structures éditoriales et de bien vouloir payer la cotisation. Voilà. Donc au total, ça nous ferait 51 membres partenaires. Donc la différence entre membres partenaires et membres associés, c'est que les membres partenaires sont représentés par les membres fondateurs et les membres associés, non. Au total, donc, l'Assemblée des éditeurs réunirait 115 représentants, donc 60 garants de la responsabilité scientifique des publications et 55 garants de la responsabilité éditoriale des publications. Donc en résumé, l'ALEF comprendrait donc 60 structures, 45 sont en SHS, 4 en STM et 14 en SHS-STM. C'était important qu'on ait toutes les disciplines représentées, bien sûr. Au total, ces 63 structures publient environ 1360 ouvrages par an et plus de 300 revues. Leur catalogue cumulé comprend plus de 41 000 titres. Ils font travailler environ 500 professionnels ITRF, ITA ou apparentés. Mais également, ils font travailler plus de 4000 chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont soit directeurs de maison, directeurs de collection, directeurs de rédaction ou membres de comité. Et sous ce travail permet à plus de 6000 chercheurs et enseignants-chercheurs de tout l'ESR d'être publiés chaque année. Donc l'ALEF pourra profiter d'un paysage riche et varié. Donc il ne s'agira pas de mutualiser les structures, ni d'harmoniser l'organisation de ces structures. Il est important aux yeux de l'ALEF de respecter la diversité et l'identité propre à chaque structure, qui ont des différences dans leur rattachement institutionnel. Certaines ont une personnalité morale, d'autres non. Au sein de leur établissement, elles peuvent être attachées à la présidence, à des services communs, des services de valorisation, des services d'appui à la recherche ou des services de diffusion des connaissances, ce qui montre que leur mission et les objectifs que leur font porter leur établissement varient selon les cas. Il y a également les politiques éditoriales sont différentes, les disciplines bien sûr et les politiques de diffusion. Donc du point de vue géographique, on constate que les structures sont plutôt bien réparties sur l'ensemble du territoire, donc avec un pôle bien sûr en Ile-de-France important. Un second pôle lyonnais également, qui nous accueille aujourd'hui. Et on peut remarquer que le Grand Ouest est également bien représenté, avec la spécificité des presses universitaires de Rennes, qui sont un service d'activité industrielle et commerciale qui bénéficie à 12 universités au total. La recherche française se déploie également sur tous les continents, grâce notamment aux presses ultramarines, au réseau des UMIFRES, donc qui sont ils sont rattachés à des instituts français et dépendent du ministère des Affaires étrangères. Donc on peut citer Africae ou l'IFPO, et aussi donc une présence à l'international grâce au réseau des écoles françaises à l'étranger. Donc toutes ces structures sont engagées dans un objectif commun, dont l'objet est le développement de l'édition scientifique par le soutien aux structures éditoriales rattachées à des institutions publiques et engagés dans la science ouverte, ainsi que par la valorisation de leurs publications. L'ALEF soutiendra la complémentarité des diffusions imprimées et numériques pour construire des modèles de revenus permettant l'accès ouvert au contenu. Donc l'idée, c'est de réunir les compétences et les moyens pour favoriser la construction d'une économie raisonnable de l'édition en accès ouvert. Donc pour cela, nous avons déterminé 4 missions principales. Donc il s'agira de fédérer les acteurs, donc représenter collectivement l'édition scientifique publique, être un interlocuteur identifié par nos partenaires et de tutelle, et parler d'une seule voix dans le respect de l'autonomie et de la diversité des structures membres. La seconde mission, bien sûr, est de représenter l'édition publique, donc d'adhérer à une définition partagée des missions que doivent porter les structures éditoriales scientifiques, défendre l'expertise et la plus-value de l'activité d'édition, et défendre, bien sûr, l'autonomie et la diversité des structures et de leur politique éditoriale. La troisième mission est la valorisation, donc valorisation des structures éditoriales, de leur catalogue, d'améliorer notamment la visibilité nationale et internationale des publications, mais également valoriser les établissements qui portent ces structures et plus largement la recherche française. Et l'idée aussi est de permettre une meilleure visibilité de l'activité d'édition dans les SR. Enfin, ma quatrième mission, le partage et l'accompagnement. Donc, il s'agit d'identifier des besoins non pourvus en interne et concevoir des services d'appui ou des outils partagés pour y répondre. Bien sûr, réaliser une veille, diffuser l'information et offrir des conseils spécialisés aux membres. On pensait d'ailleurs monter une cellule d'aide juridique que chaque structure pourrait solliciter. Et enfin, l'un des grandes missions, c'est d'accompagner la recherche d'un modèle de production et économique pérenne, au coût maîtrisé et proportionnel aux services fournis par les structures éditoriales. Donc voici une liste d'actions de l'ALEF. Donc je tiens à préciser que ces actions, ce ne sont que des propositions pour vous donner des pistes de réflexion sur. C'est l'Assemblée souveraine qui décidera du programme de l'ALEF et de la priorisation des premières actions menées. On peut imaginer que l'ALEF permettra d'aider à la formation pour la mise en œuvre d'une chaîne du livre numérique accessible au public empêché de lire. On a pu être informé du fait que le ministère de la Culture était prêt à nous donner des fonds, et aussi le fonds d'aide au handicap, que nous avait parlé. Sinon, d'autres actions, ça serait la diffusion d'un catalogue de droits, le développement des coéditions, la représentation de toutes les structures au sein des foires internationales. Il serait possible également de créer un catalogue commun des publications, d'aider à la recherche de financement, donc notamment pour la numérisation des fonds, l'accompagnement dans l'intégration d'une chaîne d'édition structurée, bien sûr la sensibilisation des acteurs de l'ESR au rôle des éditeurs scientifiques, ou enfin la création d'un label de qualité éditoriale et scientifique. Le modèle économique de l'Alliance repose en grande partie sur les cotisations des membres fondateurs, ainsi que sur les cotisations de chaque membre partenaire et associé. Et le ministère a accepté à partir de 2025 de verser une subvention de 50 000 euros. Voilà, d'autres pistes de financement seront à creuser une fois l'Alliance créée. Et donc le budget de fonctionnement est estimé entre 100 000 et 140 000 euros en dehors du salaire du secrétariat exécutif. Voilà, donc en définitive, l'ALEF sera le lieu de coordination des acteurs de l'édition scientifique publique et renforcera les synergies entre tous les partenaires du domaine, favorisant ainsi la cohérence des politiques de publication scientifique nationale au niveau européen et international. Voilà. C'est tout pour moi. Merci.
S'il y a des questions dans la salle.
Non. C'est très clair. Bon, écoutez. Bon, je suis disponible à la pause si vous avez des questions qui vous viennent après. Ah, il y a une question. Oui.
Est-ce que ça fonctionne ? Bonjour Séverine, c'est Astrid,
oui.
Je suis au fond.
Oui, je te vois.
Merci pour ta présentation qui était super claire et qui donne un aperçu très complet, je pense, que des actions que vous allez mener. Moi, j'avais une question concernant la diffusion-distribution des ouvrages. Est-ce qu'il y a une réflexion prévue parce que bah, c'est quand même un sujet. Hein. Voilà, je pense que j'apprends rien à personne dans cette assemblée. J'ai peut-être loupé la slide, je suis désolée, mais si tu peux redévelopper ou me réexpliquer, j'ai peut-être loupé ce moment. Merci beaucoup.
Non, bah c'était noté dans les actions possibles de l'Alliance, bien sûr, il y aura une réflexion sur la diffusion, notamment sur les rapports possibles entre FMSH Diffusion et l'AFPU, pour essayer d'améliorer la situation actuelle qui est compliquée pour une partie des structures. Et puis aider, bien sûr, au niveau de l'Alliance par la création d'un catalogue commun et d'améliorer la diffusion et la communication sur les ouvrages. Mais voilà, je n'ai pas de piste plus précise à cette date.
Oui, bonjour, Véronique Littaudon pour le pôle édition de la MMSH. J'ai deux petits points. Sur un des objectifs, vous avez parlé d'un catalogue. Un catalogue des droits. Est-ce que vous pourriez développer, parce que je n'ai pas bien compris à quoi ça faisait référence?
Oui, en fait, il existe très peu de chargés de cession des droits, donc chargés de vente des droits de traduction à l'international au sein des structures publiques. Donc ça serait un service que pourrait rendre l'Alliance d'aller prospecter à l'international pour céder des droits de traduction faire vivre les publications de la recherche française à l'étranger. Voilà.
D'accord, merci. Et une autre petite question au niveau de l'organisation qui se projette là. Mmh. Donc il y a un comité scientifique de, je ne sais plus, une centaine de personnes, je ne sais plus où, cinquantaine de personnes.
L'Assemblée des éditeurs, oui, qui aurait 115 représentants pour l'instant.
Avec une commission pour les éditeurs et une commission scientifique. Mais l'objectif serait qu'il y ait une visibilité globale de ce qui va être des projets de publication pour en décider de façon plus globale ou c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut comprendre.
Les projets de publication restent à la main des structures éditoriales. Après, les représentants de chaque structure, oui, donc il y aura un collège des responsables scientifiques et un collège des responsables éditoriaux. C'est pour avoir une représentation des différents niveaux d'intervenants au niveau de l'édition. Et on sait par exemple que les chercheurs dirigent des services d'édition, mais ne sont pas... ne participent pas, par exemple, au réseau Médicis. Enfin, donc, c'est une façon de les impliquer, d'impliquer aussi les structures auxquelles ils appartiennent. Et je ne sais pas si je réponds à votre question.
Et encore une dernière petite chose. Ce qui m'a interpellée, c'est l'écart énorme entre le nombre de représentations au niveau des SHS et STM. Il y avait 4 éditeurs seulement. Associés. Est-ce que c'est juste une... Pourquoi il y a autant d'écarts, en fait?
En fait, dans le paysage français, il y a quand même moins d'éditeurs scientifiques STM que SHS, notamment dans le public. Les éditeurs français en STM sont peut-être plus privés. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas tous, bien sûr, ici, donc on va continuer à discuter avec eux, à essayer de les embarquer dans l'aventure. Mais c'est juste que le paysage est différent entre SHS et STM en France, au niveau d'édition publique, globalement.
Ah.
Oui, c'est à nouveau Astrid, désolée. Oui,
je t'en prie.
Je voulais savoir, dans les acteurs qui sont pressentis, est-ce qu'il y en a qui sont déjà adhérents au SNE et est-ce que tu as eu des retours sur cette question ou est-ce que tu vois des tensions émerger, sachant que j'imagine que tu ne peux pas tout dire, mais enfin voilà, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui sont déjà adhérents au SNE et qui envisagent de venir à l'ALEF.
Oui, au SNE actuellement, si je me souviens bien, il y a 9 ou 11 structures qui adhèrent au SNE, et dont la moitié au moins va rejoindre l'ALEF. Donc ça sera, enfin, l'un n'exclut pas l'autre. Et donc c'est important de toute façon de garder le dialogue avec les éditeurs privés. Mais c'est vrai que l'ALEF a vocation aussi à se positionner sur des sujets qui nous préoccupent de façon distincte du SNE et donc de pouvoir porter nos préoccupations, nos enjeux. Donc voilà, ça sera un dialogue à établir avec eux.
Bonjour, Abigail Pessès du pôle édition de la MMSH. Travaillant dans un pôle édition, par rapport à la définition que tu as donnée pour différencier en fait, éditeur, structure éditoriale publique et publieur, que sont les pôles éditions, je me demandais comment était pensée l'articulation justement entre structure éditoriale et publieur.
L'articulation, il y en aura une. Après, je ne suis pas en mesure. Il faudra d'abord que l'alliance se monte, que les instances se créent, que voilà, les gens s'impliquent. Et après, voilà, il y aura forcément des liens avec les plateformes, les pépinières. On fait tous partie de la même communauté d'éditeurs. Voilà, mais à ce stade, je ne suis pas en mesure de savoir comment ça va comment ça va se réaliser. Désolée.
Merci. Et j'ai une autre question sur les perspectives de développement des collaborations avec des éditeurs étrangers. Donc ça, ce serait plutôt du côté des IFRE et UMIFRE que ce serait mis en pratique ou ça peut être aussi de manière plus générale au sein des MSH est-ce que c'est des initiatives qui vont venir d'individuels ou il y a une vraie politique qui pourrait soutenir ce type d'initiative?
Mais déjà, l'ALEF pourrait soutenir les projets de coédition en accompagnant les structures qui se lancent et en les conseillant, et notamment sur les questions de contrats de coédition. Mais plus globalement, oui, on va essayer de développer les coéditions, donc de développer les partenariats, de rendre les structures plus visibles au niveau européen et international pour attirer des partenaires potentiels. C'est quelque chose qui se fera sur la durée, je pense.
Bonjour, moi je voulais savoir si vous alliez soutenir l'emploi pérenne au sein des pôles et différentes structures éditoriales.
J'ai envie de répondre oui, forcément.
Ouverture de concours, des choses comme
concrètement,
ça.
Concrètement, ça reste la responsabilité de chaque établissement. Après, je pense que globalement, l'existence de l'ALEF d'ores et déjà a déjà des implications parce qu'au Centre France Université c'est un sujet maintenant sujet qui a été discuté par les présidents et le fait que l'ALEF prendra sa place dans le paysage ne pourra que aider les structures éditoriales à défendre leur politique d'emploi.
Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, j'ai plutôt deux questions par rapport au modèle économique. Je voulais savoir si on avait de la visibilité au-delà de 2025. Et je voulais savoir s'il avait été envisagé une modulation des cotisations en fonction de la taille de la structure, puisqu'on parle de 2 000 euros en 2025, ce qui est quand même une somme assez conséquente. Voilà, je veux savoir si ça avait été pris en compte dans votre réflexion.
Alors, le montant de la cotisation reste le même indépendamment de la taille de la structure, puisque le principe, c'est une structure, une cotisation et deux voix à l'Assemblée des éditeurs. Donc, il ne faudrait pas que des gros acteurs aient plus de poids que d'autres. Enfin, voilà, c'est une structure, une voix. Après, pour 2024, on a considéré qu'on allait partir sur un demi-exercice. J'ai mis 2025 pour les cotisations pleines, parce que c'est ce qui a été discuté par les membres fondateurs qui est inscrit dans les statuts. Et c'est à partir de ce montant aussi que le MSR s'est positionné. Mais il a déjà été vu par les membres fondateurs que le montant des cotisations serait discuté pour 2025 par l'Assemblée des éditeurs et validé par le directoire, puisqu'il faut peut-être attendre que l'ALEF monte en puissance, développe ses actions pour qu'on arrive au niveau de cotisation prévu par le projet. Voilà.
Bonjour, je suis Roberta Seva de la MSH Paris Nord, je travaille pour le CREDA. Je voudrais savoir si c'est toujours possible de candidater à une adhésion à l'ALEF en tant que structure éditoriale.
Si vous avez été dans les structures répondant, enfin, qui ont été destinatrices de l'appel à manifestation d'intérêt, il peut être possible de candidater encore. Après, pour l'instant, on va s'arrêter aux structures qui ont été identifiées dans le rapport de Caroline. Et voilà, on ouvrira peut-être ultérieurement à d'autres. De toute façon, la façon dont l'appel à manifestation se passe, c'est que les structures candidatent, mais il y aura une deuxième étape, donc en juillet, donc il faut quand même pas tarder. Où on va se retourner vers leurs établissements de tutelle pour savoir s'ils garantissent l'adhésion de leur structure et sont d'accord pour verser le montant de la cotisation. Donc, voilà.
Merci.